Les milieux humides sont partout autour de nous. Pourtant, on les connaît encore très peu et on les perd, souvent sans même s'en rendre compte. Depuis plus de 50 ans, Canard Illimité Canada agit au Québec pour les conserver, les restaurer et mieux comprendre leur rôle essentiel. Mais derrière ces actions, il y a une histoire faite de projets, d'innovation, de collaboration et surtout de personnes engagées. Dans ce balado, on vous propose de remonter le fil de cette histoire. Je suis Fabien Cloutier et je vous invite à plonger dans l'histoire de Canard Illimité Canada au Québec avec moi. Dans ce premier épisode, on remonte au début de Canard Illimité Canada au Québec pour comprendre d'où on vient. Pour en parler, je suis avec deux personnes qui connaissent très bien cette histoire-là. D'abord, Jean-Pierre Laniel, qui a été impliqué directement dans le développement des projets au Québec, notamment dans les premières décennies de l'organisation. Biologiste, responsable des relations gouvernementales, vous avez travaillé chez Canard Illimité Canada pendant plus de 20 ans.
Bonjour.
Bonjour. Puis il y a aussi Sébastien Rioux, directeur régional des opérations pour l'Est du Canada chez Canard Illimité. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Alors, on va remonter d'abord au tout début, là, avant même l'arrivée de Canard Illimité Canada au Québec. Pourquoi une organisation comme celle-là a été créée?
Bien, au début des années 1900, l'emphase était vraiment mise sur le développement du territoire dans les prairies canadiennes. Donc, il y avait des programmes gouvernementaux qui étaient mis à la disposition des producteurs agricoles pour vraiment développer le territoire puis développer l'agriculture dans les prairies. Donc, si bien qu'en 1901, on était à 1,5 million d'hectares cultivés dans les prairies et en 1930, on était à 16,4 millions d'hectares cultivés dans la même région. Donc, et ce développement-là de l'agriculture s'est fait au détriment des milieux humides et des prairies naturelles. Et donc, ça a laissé de la terre à nu et donc ça a laissé en proie le sol à l'érosion éolienne. Et ce qui s'est passé, dans la même période, il y a eu des sécheresses très intenses dans les prairies qui ont fait en sorte d'exacerber le phénomène d'érosion éolienne. Et puis, couplé à tout ça, il y a eu en 1929-1930 la Grande Dépression. Donc, on a vécu à cette époque-là une des pires crises économiques et environnementales au Canada. Bien sûr, ça a eu des impacts sur l'habitat de la sauvagine. Parce qu'on sait qu'il y a 70 % des populations de sauvagines qui sont produites dans les prairies en moyenne. Donc, impact sur les habitats, si bien qu'en 1936, la chasse a été écourtée à 30 jours seulement aux États-Unis. C'est la période de chasse la plus courte de l'histoire de la chasse à la sauvagine aux États-Unis. Donc, en réaction à tout ça, les chasseurs voyaient que leur activité était mise en péril et les populations étaient mises en péril. Et en 1937, il y a Canard Limité Incorporé aux États-Unis qui a été créé, donc tout de suite l'année après la période de chasse qui était écourtée. Et en 1938, Canard Limité Canada a vu le jour. Et donc, dès les premiers instants de la création de l'organisation, l'objectif était de restaurer les habitats de la sauvagine, mais aussi de rendre les prairies plus résilientes aux changements de l'environnement puis aux sécheresses. Donc, de réimplanter des milieux humides, de réennoyer les prairies, c'était une stratégie pour faire en sorte que les écosystèmes étaient plus résilients, produisent plus de sauvagine, puis permettent aux agriculteurs aussi d'avoir un peu plus de résilience dans leur activité.
Parce que dès le départ, ça veut dire que, les environnementalistes de l'époque et les chasseurs ont constaté un déclin dans les populations de sauvagines.
Exactement. Puis, pour arriver à restaurer les habitats, la voie de passage, c'était vraiment de travailler avec les agriculteurs des prairies puis d'en mettre l'emphase sur la restauration de ce qui avait été perdu.
Donc, c'est parti d'une crise écologique majeure. Et quand est-ce que cette initiative-là qui a commencé dans les prairies a fini par arriver au Québec?
C'est arrivé beaucoup plus tard au Québec. Canard s'est bien implanté dans l'Ouest, principalement les trois provinces de l'Ouest là, pour les grandes prairies. Par la suite, Canard a voulu étendre son action dans les autres provinces du Canada, notamment au Québec, où est-ce qu'on a des populations, par exemple, de canards noirs qui sont très typiques au Québec, il n'y en a pas dans les prairies, ou encore la grande oie des neiges. Donc, il y avait un besoin de venir d'agir concrètement au Québec pour pouvoir justement protéger ces espèces-là.
Et puis comment ce lien-là, il s'est fait comment avec le Québec? Comment ils se sont implantés ici? On parle d'une organisation des prairies qui arrive au Québec. Est-ce que ça s'est fait assez facilement? Ou...
Il y avait déjà des bureaux dans les maritimes, dans les provinces maritimes. Puis avec l'arrivée du barrage de Carillon sur la rivière des Outaouais, il y a eu des impacts assez importants sur, justement, les marais qui longeaient la rivière du côté nord. Donc, il y a eu des ententes de développer entre Canards illimités, évidemment, qui commençaient à arriver dans l'Est du Canada, et puis le gouvernement du Québec pour venir faire des aménagements propices à la sauvagine, donc, et aussi, évidemment, propices à l'environnement en général. Donc, ils ont commencé. Le premier projet, si je me rappelle bien, c'est le projet Turceau, donc dans l'Outaouais, qui est dans le parc de Plaisance. Premier travaux en 1974, puis réalisation finale en 1979. Donc, Canard est venu par la suite s'implanter. En fait, Canard s'est implanté un petit peu après le début des travaux, en 1976, avec un bureau propre au Québec, ce qui n'existait pas avant.
Donc, des premières embauches, là.
Tout à fait. Québec. Premières embauches, un directeur provincial, un biologiste, des techniciens pour le terrain, qui ont commencé à œuvrer, justement, à identifier des projets et à venir travailler à monter une banque de projets et faire de la restauration sur le territoire.
Ça s'est installé tranquillement, là, ce début-là, là. Ça n'a pas été d'un coup sec. J'imagine qu'il y a eu des liens à tisser, comme vous l'avez dit.
Tout à fait. Il fallait, un, faire de la prospection, donc aller sur le terrain, identifier des sites. Souvent, ça s'est fait soit avec des propriétaires, des partenaires locaux, ou même municipalités, gouvernements, pour identifier les sites les plus importants. Et par la suite, évidemment, développer l'expertise, donc avec l'expertise de Canard existe, mais au Québec, c'est un peu différent. Mmh. On n'est pas dans les prairies où est-ce que c'est surtout des étangs temporaires. Au Québec, on est beaucoup le long des cours d'eau, donc c'est une dynamique très différente. Donc, il a fallu aller chercher de l'expertise aussi différente. Mmh. Oui, biologiste, aussi ingénieur, technicien en génie, des gens pour aller négocier des ententes avec les propriétaires, parce qu'à l'époque, tout se faisait par entente. C'était des ententes de 25, 30, 35 ans, indépendamment des projets. Donc, ce n'est que plus tard, avec d'autres grandes initiatives internationales, qu'il y a pu avoir plus des projets d'acquisition, par exemple, protection par l'acquisition.
C'était quoi les principaux défis là, dans les premières années de Canard illimité au Québec?
Un des plus gros défis, ça a été d'adapter l'approche de Canard illimité à la situation, justement, des grands cours d'eau. Beaucoup de travail en pleine inondable, alors que dans les prairies, c'est une autre approche. Là, c'est moins de territoire.
Un environnement complètement
différent. Il a fallu donc s'attaquer à cette espèce de dynamique de régime hydrique des cours d'eau pour être en mesure de faire des aménagements qui étaient solides et vivaient dans le temps. Donc, réparer des aménagements à chaque année, c'était peut-être pas une bonne approche. Donc, il y avait un désir d'avoir des aménagements solides, puis surtout s'assurer que les populations de sauvagine et le milieu que l'on créait et restaient stables pendant plusieurs années. Grand défi au début des années 80 au Québec, c'est l'arrivée des évaluations environnementales, donc un régime environnemental pour protéger l'environnement du Québec, ce qui est tout à fait louable. Ça s'adressait beaucoup à des grands projets d'infrastructure. Donc, c'était appliqué selon la superficie des sites qui étaient touchés. Fait que je pense que au-dessus de 5 hectares à l'époque, ça prenait une étude environnementale. Les études environnementales, c'est un processus long et coûteux, donc il faut aller chercher de l'information sur le terrain. Il faut documenter ça dans une étude proprement dit, prévoir les impacts de la construction, les impacts à long terme, puis déposer ça pour une analyse. Et si, à l'époque, même la consultation publique pouvait être impliquée dans les projets si le projet était jugé frivole par le gouvernement. Donc, ça a impliqué beaucoup d'expertise nouvelle à Canard. Puis c'est pour ça qu'au Québec, pour faire ces projets-là, bien, il a fallu pousser un petit peu la machine avec des gens qui étaient capables d'aller chercher des solutions. Donc, ça a été fait en déposant des études d'impact, puis par la suite en mettant en place des suivis environnementaux pour venir démontrer justement que ces projets-là, c'était bénéfique plutôt que dommageable pour l'environnement. L'objectif, c'était l'aménagement de ces espèces-là et surtout l'écosystème lui-même, la protection de l'écosystème à long terme. Donc, il y avait des suivis environnementaux sur la végétation, sur l'eau notamment, sur les populations de sauvagines qui utilisaient le site, la reproduction, et aussi sur les autres organismes qui fréquentaient les sites. On était en pleine inondable. Donc, le poisson, le printemps, peut entrer. S'il ne peut plus sortir parce qu'on a fait une structure de contrôle, il reste emprisonné et là, il peut avoir des mortalités. Donc, il a fallu aussi développer l'expertise côté poisson. On a fait ça beaucoup avec le gouvernement du Québec. Donc, nous, chez Canard, on a engagé une personne, mais le gouvernement nous appuyait aussi dans les expérimentations, dans les inventaires, etc. Donc, le ministère de la Faune, à l'époque, a été beaucoup impliqué avec nous pour développer les suivis puis essayer de faire la preuve que les projets de Canard ne devaient pas nécessairement être assujettis. Et effectivement, quelques années plus tard, on a été désassujettis. Donc, il y a des exceptions dans la loi, dans la réglementation qui vient dire que les aménagements fauniques, notamment, n'ont plus besoin de faire d'évaluation environnementale.
Puis, en créant des aménagements aussi qu'on vise bénéfice pour une espèce, mais qui ne deviennent pas aussi nocifs pour une autre à travers tout ça. Là.
Absolument, parce qu'on aménage un écosystème ou un habitat. Donc, il y a d'autres espèces qui en profitent. Et en aménageant et en le protégeant, bien, l'ensemble des espèces qui utilisent ce milieu-là en profite.
Parce que j'imagine, autant qu'il y avait une expertise dans les prairies à l'époque, avec le territoire puis les spécificités régionales de ce coin-là, ici, j'imagine qu'à force d'en faire, c'est une expertise différente qui s'est développée.
Tout à fait. L'expertise était très différente. Puis c'est des aménagements qui sont en pleine inondable. Si on veut que ça soit durable, ça prend quand même des infrastructures. Donc, les infrastructures qui sont mises en place, il faut qu'ils fassent le travail dans le temps. Puis, il faut qu'ils soient assez adaptés et malléables pour permettre justement certaines opérations. Si le poisson rentre, par exemple, bien, il faut s'assurer d'être en mesure de le faire sortir à une certaine période de l'année pour pas qu'il meure dans le milieu humide. Donc, ça a pris une belle expertise.
Un bon temps. Est-ce que c'est propre au Québec, ça, cette collaboration-là, assez près, entre Canard Illimité et le gouvernement?
Bien, Canard Illimité, dans toutes les juridictions canadiennes, collabore étroitement avec les différents paliers de gouvernement. Mais je vous dirais qu'au Québec, la relation entre Canard Illimité et le gouvernement du Québec est très étroite. Et puis, non seulement avec le gouvernement du Québec, mais aussi avec d'autres partenaires très importants, comme la Fondation de la Faune, par exemple, qui a été un acteur et un joueur clé pour Canard Illimité au Québec. Donc, mais on a tissé aussi des partenariats avec une kyrielle d'organisations locales aussi. Et notre force, c'est le partenariat. Donc, c'est ancré dans nos valeurs et dans notre façon de travailler. Et je dirais, la marque de commerce aussi de Canard Illimité, c'est d'agir en mode solution. Donc, trouver des solutions aux enjeux en travaillant avec les acteurs du milieu.
Est-ce qu'il arrive un moment où l'organisation là, change vraiment d'échelle? Ou est-ce que Canard Illimité change dans son importance et dans sa structure, puis j'imagine dans son lot d'actions?
Absolument. Au début des années 80, malgré les actions qui sont effectuées sur le terrain à différentes échelles, on se rend compte que les populations de sauvagines continuent à décliner. Et là, il y a une prise de conscience que les actions doivent être concertées à l'échelle internationale. Et c'est là qu'il est mis en place le plan nord-américain de gestion de la sauvagine. Donc, ce plan-là vient orienter les actions des trois pays signataires, donc le Canada, les États-Unis et le Mexique. Et le plan nord-américain est lancé en 86, donc le Canada et les États-Unis le signent en 1986. Et en 1994, le Mexique se joint à cette initiative-là. Et on ne peut pas travailler sur la conservation d'une espèce migratrice si on ne travaille pas sur les différentes composantes de son cycle de vie. Donc, on l'a dit tantôt, les prairies canadiennes produisent en moyenne 70 % des populations de sauvagines à l'échelle nord-américaine, mais ils passent aussi par les États-Unis et ont besoin des aires de migration. Et hivernent au Mexique, ils ont besoin des aires d'hivernage aussi au Mexique. Donc, si les aires d'hivernage sont détruites, on vient chambouler une partie du cycle de vie. Donc, à titre d'exemple, il y a 85 % des sarcelles à ailes bleues qui vont hiverner au Mexique et jusqu'à 35 % des populations nord-américaines de fulgules à tête rouge. Et donc, vient ce plan-là qui vient en chasser les actions à l'échelle continentale et la coopération entre les trois pays. Et en 1989, est lancé une loi qui est dotée aussi d'un mécanisme de financement qui est la North American Wetland Conservation Act des États-Unis. Et là, pour la première fois dans l'histoire, il y a un mécanisme de financement international qui est établi et qui est dédié à la conservation de la sauvagine. Donc, il y a des deniers publics du gouvernement américain qui sont prévus dans la loi pour être envoyés au Canada pour protéger les habitats de nidification. Et il y a aussi des montants qui sont prévus pour les États-Unis pour les habitats de nidification et de migration et pour le Mexique pour les habitats d'hivernage. Et avec le lancement de cette loi-là vient des moyens financiers beaucoup plus importants. Et donc, des actions et un impact à l'échelle du territoire qui est un, coordonné, et deux, plus important.
Parce que tout le monde s'est rendu compte que ça valait la peine de collaborer. On ne pouvait pas travailler chacun de son côté puis espérer avoir des résultats qui allaient être probants.
Exactement.
Ce lien-là avec l'international puis les moyens de financement qui ont changé aussi, ça a changé quoi dans les façons de travailler concrètes chez Canard Illimité au Québec, au Canada?
Bien, par exemple, là, il y a un plan international de conservation qui est écrit et échafaudé entre les trois organisations. Donc, Canard Illimité Canada, Canard Illimité aux États-Unis et Dumac au Mexique. Donc, les trois organisations s'assoient ensemble et établissent des zones prioritaires à l'échelle continentale où les fonds et les actions seront concentrés. Et c'est fait de manière concertée. Mmh. Et donc, on va cibler, par exemple, au Québec, les basses terres du Saint-Laurent, qui est une zone prioritaire, et le piémont des Appalaches aussi, qui est une autre zone prioritaire. Canard Illimité aux États-Unis voit que, par exemple, au Québec, notre focus va être dans ces zones-là. Mmh. Et vice-versa, Canard Illimité Canada voit, par exemple, dans les Dakotas, donc le Dakota du Nord, Dakota du Sud, ça fait partie des zones prioritaires aux États-Unis. Donc, il y a une transparence puis une collaboration quand vient le temps d'échafauder les actions ou de coordonner les actions de conservation.
Est-ce que la vision de Canard Illimité, ça, j'imagine que ça a évolué au fil des temps, parce qu'on l'a vu, t'sais, un départ dans les prairies, ensuite ça s'étend à l'est du Canada, au Québec. Comment cette vision-là, en fait, ces visions de développement-là ont changé avec les années?
En fait, la vision de Canard Illimité a toujours demeuré la même. C'est donc la mission est vraiment de protéger les habitats de la sauvagerie nord-américaine. C'est dans l'approche. Donc, l'approche au Québec, comme Jean-Pierre le parlait, on travaille dans des écosystèmes qui sont dynamiques, qui sont variés, avec des régimes hydriques qui sont fluctuants. Et donc, l'approche doit être écosystémique. Donc, on a parlé du poisson tout à l'heure. Donc, si les poissons entrent dans les milieux humides, c'est important qu'ils puissent être capables d'en ressortir et que le milieu humide ne soit pas une trappe écologique pour ces espèces-là. Il y a la composante espèces en péril également. Donc, autant les milieux humides aménagés par Canard peuvent créer de l'habitat pour les espèces en péril. On peut penser au petit blongeau, par exemple, ou à d'autres espèces en péril, comme la tortue mouchetée qui fréquente nos milieux humides. Quand vient le temps de procéder aux réparations ou aux mises à niveau de nos infrastructures, on doit tenir compte des cycles de vie des espèces en péril et adapter nos techniques d'intervention aux espèces en péril.
Est-ce que j'imagine que cette vision-là n'est pas nécessairement unique au Québec? Là, c'est partout où est-ce que Canard Illimité Canada travaille, qu'elle a besoin d'avoir cette pensée pour les autres espèces puis pour la vision écosystémique, en fait?
Ouais, Jean-Pierre en parlait tout à l'heure, les aménagements fauniques ne sont pas assujettis aux évaluations environnementales maintenant, mais on doit quand même obtenir des autorisations environnementales pour pouvoir travailler dans le milieu. Et donc, sans cette approche écosystémique-là, les autorisations ne nous seraient pas délivrées pour effectuer les travaux. Donc, on doit tenir compte du cycle de vie de d'autres espèces qui fréquentent les milieux humides, qui ont été créées par Canard Illimité.
Puis, vous, de toute façon, vous le faites pas à regret.
Non, absolument pas.
On n'est pas contraint de protéger une tortue ou quelque chose comme ça. T'sais, on veut bien...
Exactement. C'est dans notre ADN de protéger puis de que nos actions bénéficient, oui, à la sauvagine, mais aussi aux autres espèces qui peuvent fréquenter les milieux qu'on va créer sur le territoire ou protéger sur le territoire.
Quand on pense au début de Canard Illimité ici au Canada jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui vous frappe le plus dans tout ce chemin-là qui a été parcouru?
Il y a plusieurs éléments. Sébastien parlait du plan nord-américain de gestion de la sauvagine. Ça s'est décliné en plan conjoint au Canada. Donc, je pense qu'il y a 4 plans conjoints des habitats, puis il y a 3 plans conjoints sur les espèces. Par exemple, le canard noir ou la grande oie des neiges qui vivaient des situations particulières. Le plan nord-américain s'est subdivisé avec le plan conjoint des habitats de l'Est, en ce qui nous concerne. D'ailleurs, monsieur représente Canard Illimité dans les provinces de l'Ouest, dans les provinces de l'Est du Canada, donc l'Ontario, le Québec, les Maritimes, Terre-Neuve, Labrador. Donc, l'ensemble de ces provinces-là se sont donné la main pour produire des prévisions puis des objectifs de conservation. Et à partir de ces prévisions-là, c'est possible d'aller chercher des fonds du côté américain. Et là, ça a amené, évidemment, des nouveaux fonds. Donc, la capacité d'étendre l'action. Par exemple, Canard a commencé avec un bureau à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ensuite, il a développé des bureaux satellites en Abitibi, dans l'Est du Québec. Et puis, avec l'arrivée des études d'impact, il a plus relocalisé ses actions vers la ville de Québec. Donc, maintenant, Canard Limité a son siège québécois à Québec. Et puis, avec les travaux du plan conjoint des habitats de l'Est, mais ça a donné beaucoup plus d'argent aussi pour atteindre des objectifs encore plus grand. Donc, ce côté-là a permis d'aller chercher des employés, évidemment, d'étendre l'action de Canard Illimité un petit peu plus largement au Québec. Je parle de l'Abitibi, on parle de l'Est du Québec, on parle du fleuve Saint-Laurent, évidemment, dans son entièreté. C'est assez énorme comme écosystème. Et puis, développer des expertises, comme on l'a mentionné, bien particulières au Québec, avec l'aide du gouvernement. Ça, c'est peut-être quelque chose qui est intéressant à mentionner. Avec l'arrivée de l'argent, il y a eu beaucoup de partenariats de fait, mais il y a eu beaucoup de partenariats avec le gouvernement du Québec, notamment, qui a permis, justement, de venir consolider aussi les montants qui étaient donnés à Canard Illimité au Québec. Donc, il y a énormément de capacités qui ont été développées dans le temps. Donc, Canard a vraiment grandi comme organisation, puis il n'a pas que regardé la restauration. Maintenant, Canard Illimité est en mesure de faire de l'acquisition de terrain pour protéger les sites, faire de la restauration si c'est nécessaire dans ces sites-là, entretenir ces vieux ouvrages, parce qu'il y en a qui datent de 50 ans, donc ça fait un petit bout quand même, puis si on ne s'en occupe pas, bien, on perd les bénéfices qui étaient accumulés dans ces milieux-là. Et puis aussi la mise en valeur, communication, mise en valeur, qui est aussi important. Je pense qu'il faut... C'est important que Canard ait un rôle dans l'éducation, dans la communication sur la valeur de ces milieux-là pour les Québécois.
Ouais.
Puis ça, c'est possible de le faire à travers les différentes initiatives qui ont été faites dans le plan américain puis en partenariat.
J'imagine qu'il y a une fierté de voir... ce que Canard a réussi avec les années, puis une fierté, puis un désir de voir des actions continuer à aller dans le bon sens pour la faune puis les milieux humides ici?
Absolument. Quand je me réveille le matin, puis je me dis que ce qu'on fait est visible de Google Earth, pour moi, c'est une source de satisfaction. Donc, les milieux humides aménagés de Canard Limité sont visibles de l'espace. Ça, c'est pas mal trippant. Puis, c'est une fierté aussi pour moi de voir l'impact que l'équipe a maintenant à l'échelle du Québec. Donc, on est parti d'une organisation qui était somme toute assez petite, puis maintenant, c'est une organisation qui a beaucoup d'impact à l'échelle du paysage. Donc, c'est spectaculaire, la progression, puis de voir aussi les partenariats qui sont créés. Il y a des organisations qui viennent à nous et puis qui nous consultent comme experts dans le domaine. Donc, on détient maintenant une expertise qui est convoitée par d'autres, puis aussi qui peut bénéficier à la société. Donc, ça, c'est une fierté.
Oui, puis j'imagine que les chasseurs, puis les amateurs de la faune, ne serait-ce que les observateurs ou les gens qui, pendant les saisons migratoires, entendent ces oiseaux-là, les voient aussi. J'imagine que tout ça, ça donne on sent qu'il y a quelque chose qui se passe près de nous, puis que ça crée de la vie.
Ouais, prenons l'exemple du ruisseau de feu, par exemple, à Terrebonne. Il y a des centaines et des centaines d'ornithologues qui vont visiter le site à chaque année. Il y a une passe à poissons à cet aménagement-là qui permet aux poissons de venir frayer dans nos milieux humides et ensuite de retourner au fleuve Saint-Laurent. Et les canards qui sont produits dans ce milieu-là peuvent être chassés aux alentours par les chasseurs de sauvagine. Donc, il y en a pour tout le monde dans ce qu'on fait.
Merci d'avoir été là, messieurs. Ce qu'on retient de cette histoire, c'est qu'au Québec, Canard Illimité Canada s'est construit progressivement à partir de projets concrets sur le terrain et portés par de petites équipes et beaucoup de détermination. Au fil du temps, les approches se sont raffinées, les partenariats se sont multipliés et la vision s'est élargie. Et ce sont justement ces bases posées il y a plusieurs décennies qui permettent aujourd'hui d'aller encore plus loin. Merci d'avoir été à l'écoute.